Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Babel Pongo Basimango pour le journal.
L'Afrique du Sud va rapatrier ses derniers contingents encore engagés dans la MONUSCO dans les prochains jours. La mission onusienne qui l'annonce remercie le pays de Nelson Mandela pour son soutien continu et les sacrifices consentis. Elle dit travailler pour que cette transition soit gérée de façon responsable. Plus de 3000 ménages ayant perdu leurs habitations dans les inondations l'année dernière à Kinshasa et recueillis dans différents sites d'accueil ont bénéficié le week-end d'un appui en vivre et non vivre de la Fondation Étienne Tshisekedi. Vous aurez des précisions dans ce journal. Depuis septembre l'année dernière, le taux de change du dollar américain est en baisse en RDC. Cependant, la chute du billet vert n'a pas eu un impact considérable sur les paniers de la ménagère. Pour en parler, nous recevons Mathieu Takizala, entrepreneur et analyste économique. Madame, Monsieur, bonjour. La MONUSCO annonce le retrait de derniers contingents sud-africains. Dans un communiqué publié ce 8 février, la MONUSCO indique avoir été informée par le secrétariat de l'ONU que l'Afrique du Sud retirera ses derniers soldats encore engagés au sein de la mission. La MONUSCO exprime sa profonde gratitude au gouvernement et au peuple sud-africain pour leur engagement de longue date en RDC, ainsi qu'aux casques bleus qui ont servi parfois au prix de leur vie sous le drapeau des Nations Unies. On écoute à ce sujet Kadilo, porte-parole de la MONUSCO, dans ses propos recueillis par Jude Mister Bilanda.
La mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo exprime sa profonde gratitude au gouvernement et au peuple de la République d'Afrique du Sud pour leur engagement constant depuis plusieurs décennies en faveur des opérations de maintien de la paix, ainsi que pour le dévouement dont ont fait preuve les casques bleus sud-africains dans l'exécution du mandat de la MONUSCO. La mission rend également hommage aux casques bleus sud-africains tombés sous le drapeau des Nations Unies au service de la paix en République démocratique du Congo et salue leur sacrifice. La MONUSCO se réjouit de poursuivre le dialogue avec la République d'Afrique du Sud sur les questions plus larges relatives au maintien de la paix, notamment le partage des enseignements tirés et le soutien continu aux efforts visant à promouvoir la paix et la stabilité. La MONUSCO travaillera en étroite coordination avec le secrétariat de l'ONU et les parties prenantes concernées afin que toute transition liée à cette décision soit gérée de manière sûre, ordonnée et responsable, conformément aux normes des Nations Unies et aux exigences opérationnelles.
Parlons à présent de la situation de l'aéroport de Bamboka, Kisangani, après l'attaque de drones kamikazes revendiquée par l'FC en 23. En dépit de quelques incidents d'ordre sécuritaire enregistrés, le trafic aérien se poursuit de manière optimale et la sécurité y est assurée efficacement par les forces armées de la RDC. Ces propos sont du commandant de l'aéroport de Bamboka, tenu vendredi devant la presse locale à Kisangani. Goda Wamba s'est ainsi exprimé pour couper court aux rumeurs persistantes faisant état de la fermeture de cet aéroport. Il veut également redonner confiance à la population en général et aux voyageurs par avion en particulier, afin de se débarrasser de la peur due aux rumeurs et aux réseaux sociaux. Goda Wamba, dans ses propos recueillis par Jacques Moukonkole.
Tous les équipements d'aide à la navigation sont en état d'opérationnalité, offrant aux compagnies aériennes les informations nécessaires et suffisantes pour la sécurité des aéronefs et des passagers. Les personnels de la RVA s'engagent formellement et fermement à optimiser les rendements à l'effet de promouvoir et rendre un service public qualitatif et satisfaisant pour vous, nos partenaires et clients de l'aéroport de Kisangani-Bamboka. Ne tombons pas dans ce jeu de nos ennemis qui veulent déstabiliser la RDC. Ne tombons pas dans ce jeu pour commencer à diffuser des fausses informations. La réalité est là. Kisangani, l'aéroport est opérationnel à 100%. Donc, une fois de plus, nos vifs remerciements à son excellence, le président de la République, qui a mis à notre disposition un si bel aéroport. Nous avons aujourd'hui, en RDC, la plus belle piste. Tous les pilotes qui descendent ici acclament et disent que nulle part ailleurs, nous n'avons atterri sur une si belle piste. Nous avons l'aérogare inauguré depuis une année, mis à notre disposition. Donc, nous voulons vous rassurer, vous, nos partenaires économiques, nos partenaires qui utilisaient la plateforme aéroportuaire, et l'aéroport de Kisangani est à votre disposition. À tout moment, vous serez servi dans la sécurité des personnes et de leurs biens.
Dans l'ordre de l'an en Ituri, les autorités coutumières et les acteurs sécuritaires du territoire de Djougou intensifient les campagnes de sensibilisation en faveur de la cohabitation pacifique entre les communautés. C'est le cas dans le secteur de Walendo ou Djati, où des rassemblements populaires sont régulièrement organisés à ce sujet. Ces initiatives sont saluées par la société civile locale, qui plaide toutefois pour une grande implication des jeunes dans ce processus de paix. Le point dans ce reportage de Jean-Claude Lokidile.
jeunes, responsables des confessions religieuses, acteurs du secteur éducatif, autorités militaires et policières, toutes les couches sociales sont concernées, explique le chef du secteur de Wallendou-Diatti. Pour cette autorité coutumière, ces actions de sensibilisation commencent déjà à produire des effets positifs sur le terrain. Justin Gouda.
Les fruits, par exemple, les marchés sont fréquentés, vous trouverez toutes les communautés confondues. Il y a la circulation même qui est, en tout cas, sans aucun incident. Que même dans des églises, les gens se fréquentent, que les gens soient ensemble, les gens parlent le même langage, que les gens se considèrent comme des frères et des sœurs.
De son côté, le coordinateur local de la société civile estime que sans l'implication active des jeunes, il sera difficile d'envisager un retour durable de la paix dans les territoires de Djougou. Germain Pacifique Bané.
Nous demandons à toutes les communautés de Djougou de s'accepter mutuellement et d'oublier le passé pour vivre encore l'ambiance de la vie que nos parents nous avaient emmenés avant. Nous demandons à cette jeunesse-là d'accompagner toutes ces actions qui peuvent nous ramener à une paix durable. Avant, on ne voyait pas qui est Moulindou, qui est Mouem. On ne doit pas laisser route pour ces manipulateurs.
Lors de cette tournée de sensibilisation, les autorités locales insistent également sur l'importance de bonnes relations entre les civils et les forces de défense et de sécurité afin de permettre à ces dernières d'assurer efficacement la protection des populations. Bounia, Jean-Claude Loki, Dile Radio Okapi.
Les sinistrés de pluie diluvienne à la base des inondations dans la ville de Kinshasa, parmi eux, des personnes vivant avec handicap, ont reçu samedi au stade Tata Raphaël une assistance en vivre et non vivre de la part de la Fondation Étienne Tshisekedi. Il s'agit de 3000 ménages ayant perdu leurs habitations dans des inondations l'année dernière et recueillis dans différents sites d'accueil provisoires dans la ville province de Kinshasa. Des précisions sur le déroulement de cette cérémonie dans ce reportage signé Élise Kavira.
Ces sinistrés qui avaient trouvé refuge au stade des Martyrs et Tata Raphaël, ainsi qu'à Kinkole, sont venus nombreux pour recevoir du riz, de la semoule, des haricots, du sel, de l'huile, des matelas, des vêtements et des chaussures de la part de la Fondation Étienne Tshisekedi. Le directeur général de la Fondation, Haruna Ndarabou, nous explique le sens de ces gestes de cœur.
Comme dit-on, il n'y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. C'est dans ce sens que la Fondation a apporté ces gestes aujourd'hui pour soutenir ces 3000 ménages, ces personnes vivant avec handicap. Mais au-delà, il y a d'autres programmes que nous allons mettre en place au profit de ces personnes et de ces familles.
En dehors des familles sinistrées, des personnes vivant avec handicap sont aussi comptées parmi les bénéficiaires de ces dons. Lusambila et Diazola Martin, porte-parole des 12 structures des personnes vivant avec handicap, nous partage son sentiment au terme de cette activité.
Nous avons à peu près 530 personnes qui vont bénéficier du don offert par la Fondation Étienne Tshisekedi. Mais nous plaidons plus ici pour la mise en œuvre des activités concrètes. Merci pour ces dons, mais l'homme ne vivra pas du don. Il faut que chacun apprenne à pêcher.
Cette action en faveur des sinistrés des inondations est la première pour l'année 2026. Cependant, le directeur général de la Fondation Étienne Tshisekedi promet que ce ne sera pas la dernière.
Nous sommes au Nord Kivu. L'organisation Action pour la protection de la femme, de l'enfant et de l'environnement au Congo, APOFEC, a lancé vendredi à Beni le projet Amani Kwetu, traduisez la paix chez nous. Il est axé sur la réinsertion communautaire et l'autonomisation de la femme pour renforcer la résilience communautaire. D'une durée et d'une année, ce projet entend accompagner environ 50 jeunes femmes récemment diplômées, confrontées au chômage en vue de favoriser leur insertion socio-économique. Que retenir d'autre de ce projet, Marc Marofi?
Destiné aux femmes désœuvrées, ce projet les regroupera en petites coopératives selon leur secteur d'entrepreneuriat et prévoit du matoa, du coaching et un accompagnement à stage professionnel. Un projet salutaire selon Patia Sinamouli, participante au lancement.
C'est une opportunité tellement attendue à la ville de Beni, surtout que c'est un projet communautaire, un projet qui parle de la résilience, qui vise le mentorat, qui vise l'autonomisation, la formation des jeunes filles. C'est vraiment un projet à soutenir.
Pour le chef de projet, l'autonomisation de la femme constitue un levier essentiel de la stabilité communautaire. Croyance Limous explique.
Ce que nous essayons de résoudre, c'est d'abord autonomiser la femme. Ça veut dire quand on va autonomiser la femme, on va résoudre non seulement la question du manque d'emploi, mais aussi les questions de chômage, mais aussi des questions qui sont liées, par exemple, que ce soit violence sexuelle, violence conjugale, parce que quand la femme aura aussi des capacités socio-économiques et des capacités financières, elle pourra se prendre en charge elle-même. Et ça va contribuer beaucoup dans le cadre de la paix, non seulement au niveau de la maison, mais au sein de la communauté.
Les projets Amani Kwetu visent ainsi à réduire le chômage, à renforcer l'autonomie financière des femmes et à contribuer durablement à la paix et à la cohésion sociale dans la ville de Beni. Marc Marofimbo, Beni, Radio Kapi.
Direction la province du Maniema pour parler santé. La société civile Force Vive sous antenne de Ouamaza en territoire de Kabambaré alerte les autorités compétentes et sanitaires sur les décès de plusieurs personnes, dont des femmes enceintes et des enfants de moins de 5 ans. Selon Doris Issa Iradi, secrétaire de cette structure citoyenne, ces décès sont dus à plusieurs maladies, notamment la malnutrition aiguë sévère et le paludisme. Il plaide pour l'approvisionnement des structures sanitaires, de la place en médicaments et en matériel pour une bonne prise en charge des malades. Doris Issa Iradi et Jean-Paul Florence Kizalunga.
La société civile alerte aussi les multiples décès liés aux 5 pathologies les plus racontées. Nous avons la malnutrition aiguë sévère, la diarrhée, la pneumonie, fièvre typhoïde, paludisme modéré, même masse associée par l'anémie. Un nombre très élevé vient d'être enregistré depuis le mois d'octobre 2025 jusqu'aujourd'hui au centre de santé de référence de Ouamaza et d'autres aires de santé. Les femmes enceintes et les enfants moins de 5 ans sont victimes de cette maladie avec un croissant nombre de 60%. Avertissons que l'inaction ou le retard dans les réponses sanitaires pourrait entraîner d'autres pertes de vies humaines. Nous faisons un plaidoyer au gouvernement et aux organisations humanitaires qu'ils prennent des mesures urgentes afin de sauver les vies de la population, surtout les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans qui sont plus exposés. Ces structures sanitaires nécessitent l'appui de médicaments et matériel afin de répondre aux besoins ressenti de la population, particulièrement les patients qui viennent chercher leur guérison totale.
Et dans la province de la Lomami, l'office de route vient de lancer la réhabilitation de 3 points chauds fortement dégradés sur le tronçon Ngandajika-Chikuyi, long d'environ 25 km. Les travaux ont démarré jeudi dernier grâce au financement du professeur Bruno Miteo Onyenge, député national élu de la circonscription de Ngandajika. Cette initiative répond aux cris d'alarme des opérateurs économiques confrontés à d'énormes difficultés de circulation sur cette voie stratégique. Explication avec Esther Dalafina.
Bourbier, nid de poules et zones impraticables paralysent depuis quelques mois la circulation des véhicules et compliquent à la fois l'approvisionnement en marchandises et l'évacuation des produits agricoles vers Mbujimayi, le centre de consommation. Face à cette situation, les opérateurs économiques de Ngandajika ont sollicité une intervention urgente. Leur appel a été entendu par le député national, le professeur Bruno Miteo Onyenge, qui finance les travaux à hauteur de 30 000 $ américains. La première tranche de ce financement a été remise il y a quelques semaines. Sur le terrain, les ingénieurs de l'office des routes sont à pied d'œuvre. Selon le chef de brigade, les travaux consistent au remblayage des bourbiers et à la réparation des trous les plus critiques. Il signale par ailleurs que les travaux s'effectuent pendant la période pluvieuse et cela risque de prolonger la durée de traitement des points chauds. Cette intervention arrive à un point crucial. De nombreux agriculteurs viennent d'achever leur récolte et se heurtent à d'importantes difficultés pour acheminer leurs produits vers les centres de consommation. La remise en état de ce tronçon doit ainsi faciliter la mobilité des personnes et renforcer la circulation des denrées alimentaires et des produits manufacturés dans la région. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
Pendant la présence de ce progrès au Nord Kivu, la société Virunga Energy fournit désormais jusqu'à 22,5 MW d'électricité à la ville de Goma et ses environs, notamment les territoires de Nyiragongo et Rutshuru. L'annonce a été faite par les gestionnaires du parc national des Virunga lors d'un café de presse tenu à Beni vendredi dernier. Selon la cellule de communication du parc, cette progression significative est rendue possible par la mise en service depuis septembre dernier de la première phase de la centrale électrique de Rwanguba. Bernard Danyangi nous en dit plus.
Le directeur de Virunga Energy, Ephraim Balolé, précise que le premier générateur de Rwanguba, d'une capacité d'environ 15 MW, a été mis en fonction entre août et septembre 2025, venant ainsi renforcer la centrale de Matebe, dont la capacité maximale est d'environ 13 MW. Les travaux du deuxième générateur de Rwanguba se poursuivent et pourraient s'achever d'ici fin 2026, permettant d'ajouter environ 15 MW supplémentaires. À terme, dit-il, la centrale de Rwanguba pourrait ainsi produire entre 28 et 30 MW. Pour Bienvenu Bouende, porte-parole du parc national de Virunga, cette production contribue déjà à stabiliser l'approvisionnement en électricité dans la ville de Goma, la plus peuplée du Nord Kivu. Elle garantit également une alimentation régulière des stations de pompage et de la régie des eaux, essentielles pour la distribution d'eau potable. À ce jour, la société Virunga SARL a raccordé environ 40 000 clients, dont 2 000 entreprises. l'Alliance Virunga affirme avoir permis la création de près de 20 000 emplois au cours des 10 dernières années grâce à ses activités énergétiques et de développement local.
Actualité internationale.
Au Kenya, des sangs tricotés sont utilisés par des survivantes du cancer du sein. Ils sont fabriqués par Marie Mwangi, une ancienne patiente après une ablation du sein. AfricaNews.fr qui rapporte la nouvelle précise que le retrait de tout ou d'une partie du sein est souvent source de perte de confiance et d'estime d'elle-même pour de nombreuses femmes. Ces prothèses peuvent aider à dissimuler cette perte et changer le regard porté sur les survivantes du cancer du sein. L'avantage du tricot, c'est d'abord qu'il est abordable. Beaucoup de patients, des patientes peuvent se le permettre. Les prothèses tricotées coûtent environ 10 euros chacune contre 144 euros pour la version en silicone.
L'invité.
Depuis septembre de l'année dernière, le taux de change du dollar américain est en baisse sur le marché congolais. Une évolution saluée par de nombreux ménages, tant le dollar influence directement le coût de la vie en République démocratique du Congo. Cependant, la réalité est tout autre sur le marché. Dans les boutiques, supermarchés ou quincailleries, de nombreux consommateurs affirment que la chute du billet vert n'a pas eu un impact considérable sur le panier de la ménagère. Pour en parler, Radio Capi reçoit Mathieu Takizala, entrepreneur et analyste économique. Il s'entretient avec Blaise Oshintani Kambala.
Bonjour Monsieur Takizala.
Bonjour Monsieur le journaliste.
Comment expliquez-vous la réalité du marché après la baisse du taux de change?
Aujourd'hui, le marché dépend beaucoup plus des acteurs de l'informel. Hein. La formalité est faible dans la société congolaise. Nous avons des difficultés dans notre société. D'un côté, la production n'augmente pas. Dans tout ce que nous consommons, nous dépendons des acteurs de production venant d'ailleurs. Ça, c'est déjà l'une des grandes difficultés de la société congolaise. D'un côté, le formel. Et l'informel, vous devez savoir que c'est la spéculation guette dans tous les coins. Et si nous voulons revenir pour que le marché soit régulé, il faut que la concurrence soit entre les acteurs. Aujourd'hui, nous avons une concurrence qui est déloyale.
On voit quand même une certaine stabilité. Le taux de dollar a fait plus de 4 mois, je peux dire aujourd'hui, est resté stable.
Oui, mais la monnaie, c'est quoi? C'est une valeur d'échange. On a la monnaie pour consommer, pour produire. Aujourd'hui, le taux est stable en 22, 23.
Oui.
Mais malheureusement, la consommation ne suit pas. Ça veut dire que comme notre consommation, on a laissé beaucoup plus aux acteurs de l'informel de nous produire. Et malheureusement, elle ne suit pas. Il y a une inflation sur la consommation. Les postes comme le transport, le poste comme le logement, le poste comme l'électricité, le poste comme la nourriture. Non, parce que c'est ça la grande adéquation de l'économie. Et la vraie économie est ficelée parce qu'aujourd'hui, les acteurs, même comme entrepreneurs, les acteurs structurels n'ont pas de travail.
Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour essayer d'améliorer le panier de la ménagère? Parce que là, mais il y a des mamans qui pleurent. Hein, que l'argent que son mari lui donnait, il y a quelques mois, c'est le même argent, mais au marché, le dollar semble baissé, mais les histoires ne baissent pas. Qu'est-ce qu'il faut faire pour chercher à améliorer tant soit peu les paliers de la ménagère?
Il faut faire des mesures incitatives. Il faut faire un plan de relance du secteur privé en République démocratique du Congo. Cela va permettre que les acteurs qui vont nous servir dans le marché soient quand même des acteurs structurels. Aujourd'hui, la petite commerce congolaise est en difficulté parce que l'informel est tellement supérieur. Donc, et puis, relancer la production locale. Elle n'est pas vraiment financée, l'économie. Elle n'est pas financée. Vous savez, pour être chef d'entreprise en République démocratique du Congo, vous êtes le parent pauvre du système. Pourquoi? Parce que d'un côté, il n'y a pas de financement, de l'autre côté, il n'y a pas de marché. Rappelez-vous, hein, après la Seconde Guerre mondiale, qu'est-ce que les États-Unis avaient fait pour relancer l'économie productive de l'Europe? Il fallait mettre un plan. Il faut maintenant, nous, on a fait depuis 1972 jusqu'à aujourd'hui, il y a des programmes qu'on a essayé de faire de temps en temps, mais il faut mettre maintenant un plan. Un plan de grands travaux qui va permettre maintenant de relancer l'agent économique entreprise et l'agent économique particulier. Et c'est ce qui va permettre que la production va revenir.
Le carburant a baissé depuis un moment, mais le coût de transport n'a pas changé et la population en paye les prix. Comment expliquez-vous cette situation?
Moi qui est en face de vous, je viens de voir que les Congolais, pour se déplacer, parce que même moi-même, je suis consommateur, je me déplace. Je vois que c'est extrêmement explosif. C'est trop cher. Quand vous prenez même un des roues, pourquoi tout ça? Parce que ces acteurs qui nous achètent mines sont des gens du côté de l'informel. Il faut maintenant, avec cet existant, qu'on essaie un peu de les formaliser en mettant des mesures incitatives. Lorsqu'ils vont devenir formels, automatiquement, on peut les encadrer et le prix peut être régulé. Malheureusement, aujourd'hui, la plupart des transporteurs qui nous transportent dans la ville de Kinshasa, ce sont des acteurs de l'informel. Donc, la spéculation est là.
Donc la solution est que l'État déverse ses bus, ses taxis sur la
l'État
route.
L'État doit comme chercher ça pourrait la création de plusieurs entreprises structurelles dans le domaine des mobilités. Moi qui vous parle, et avec cette lancée de contrôle dans la route, on voit qu'il y a quand même, la plupart de ces acteurs se sont cachés. Et nous, dans le groupe spécial Autogarage que je dirige, on a mis en place un dispositif, et je crois que dès la semaine prochaine, les autocars vont venir, on va le mettre dans le marché. Il faut maintenant que l'État cherche à avoir des alliés, les entreprises. Il doit aller autour des entreprises pour permettre à des entreprises qui sont connexes, liées avec le transport, de monter quand même des boîtes ou réguler ceux qui sont dans l'informel en mettant des mesures incitatives pour qu'ils deviennent les acteurs de formel pour que le transport devienne maintenant quand même un endroit où, parce que si le transport a de l'inflation, mais malheureusement, on ne peut pas faire le deux bout du mois du point de vue tranquille. Donc la population perd beaucoup de pouvoir d'achat pour se déplacer dans la ville de Kinshasa.
Monsieur Mathieu Takizala, analyste économique, je vous dis merci beaucoup.
C'est moi qui vous remercie.
Avant de clôturer ce journal, sachez que Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint de l'ONU chargé des opérations de paix, est arrivé hier dimanche à Kinshasa. Plusieurs rencontres sont prévues dans son agenda, notamment avec le président de la République, la première ministre, les présidents de deux chambres du Parlement, l'opposition politique, la société civile ainsi que les confessions religieuses. Voilà qui met fin à ce journal préparé par Jude Mister Bilanda, mis en onde par André Mungu. Merci de votre attention. Passez une excellente semaine.
C'était là le journal de Babel Pongo Massimango qui reviendra dans ses studios lorsqu'il sera 9h pour les bulletins d'information. En ce moment, il est 8h21 à Kinshasa.